Le pho vietnamien, qui est un plat à part entière, c'est même plus une base ou un aide culinaire, c'est un plat. Que ce soit au Japon, le dashi qui est à la base de la cuisine japonaise, en Thaïlande, avec la base de toutes les tom kha kai, les tom yam, les curry thai, tous les continents, le bouillon est essentiel.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde. Aujourd'hui, nous allons voyager et savourer les premiers jours de cette nouvelle année lunaire, le buffle en 2021 dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est. Vous connaissez notre curiosité et notre envie toujours de découvrir et de partager et forcément de goûter l'Asie, de bouchée en bouchée comme un voyage le temps d'une émission. Forcément subjectif ce voyage, forcément trop court aussi et forcément l'envie de revenir un autre jour, disons en tout cas, une découverte. Pour cette découverte, je ne suis pas seule. Eh bien non, puisqu'à notre table, nous avons deux invités et ES, l'une et l'autre, inspirantes, passionnantes, très attachées à faire découvrir leurs racines et leur double culture. En studio, nous avons Can Lee Win. Bonjour.
Bonjour Clémence.
Alors, vous avez été dans le management il y a un bon moment, mais après, vous avez exploité votre passion, à savoir la cuisine. Vous êtes franco-vietnamienne et gagnante, entre autres, du concours Masterchef. C'était en 2015 déjà.
C'est bien ça.
Voilà, oui. Cuisine pour expression, finalement, assez tôt. Céline Cheng, elle est chez elle. Bonjour.
Bonjour Clémence, bonjour Camille.
Donc
bonjour.
Avec nous quand même, hein, autour de cette table, des racines chinoises pour Céline à Shanghai, business analyst dotée d'une sacrée fibre entrepreneuriale et une passion également pour la cuisine. Alors je vais vous demander de nous emmener, donc de sortir de chez vous Céline et vous Camille de ce studio et de, eh bien tout simplement de nous dire où est-ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on mange? Can Lee, peut-être?
Si je m'imagine quelque part, ce serait le Vietnam, parce que depuis le début de la pandémie, c'est là que j'aimerais aller en premier. On est dans la rue, déjà. Et on vient de descendre à notre scooter, parce qu'on se déplace uniquement en scooter, en tout cas avec moi. Et on s'arrête à un stand de Ban Quen, qui est une spécialité hanoïenne à la base, mais qu'on trouve un peu partout dans le Vietnam, qui est une crêpe à base de farine de riz gluant, qui se cuit à la vapeur et qui se mange avec plein de sauce Nok Mam et du pâté et des pickles et une farce à l'intérieur de porc et d'ail. On est là et c'est très bruyant, il y a plein d'agitation. Ça sent bon partout et ma famille autour de moi.
Et il fait chaud.
Ouais, c'est l'été là, en ce moment. Donc il fait chaud, il fait humide et on mange un peu pimenté, donc on transpire un peu du nez en même temps.
Céline, est-ce qu'il fait chaud là où vous nous emmenez aujourd'hui?
Alors, je vous emmène à Shanghai. Et donc, on va imaginer le printemps, parce que c'est la saison la plus sympa. Donc, on est à chemise et jean, basket. On se balade dans la rue aussi. Il y a beaucoup de monde. C'est bruyant. La Chine s'est peuplée, surtout Shanghai. On se bouscule un petit peu. Il y a du bruit, il y a des odeurs. Mais c'est très, très dynamique. Il y a une très belle énergie. Et on a une petite faim. C'est l'heure du goûter, il est 15h. Du coup, on s'arrête à un petit boui-boui ouvert qui a des énormes paniers vapeur. Et donc, plein de paniers bambou avec plein de bao à l'intérieur. Donc, on regarde la carte. Et donc, il y a des bao végétariens, des bao porc, quelques bao sucrés à la pâte de haricots rouges. Et j'ai plutôt envie de saler. Du coup, je fais la queue. Et donc, je commande deux bao, un végétarien et un classique au porc. C'est que des bao cuits à la vapeur, sans sauce, qu'on mange à la main. Donc, c'est vraiment sur le pouce. Et après, je continue ma balade à Shanghai.
Moi, je trouve qu'on est pas mal. Merci beaucoup de nous avoir emmenés comme ça en l'espace de quelques minutes si loin, ici et là au Vietnam et à Shanghai en Chine. Donc voilà, on vous remercie. Moi je suis très très bien. Je voudrais savoir, parce que bien sûr on va parler de vos parcours, parce que ce qui est étonnant c'est que l'une et l'autre, vous avez des parcours différents et en même temps comme en parallèle. Et vous avez créé l'une et l'autre à Paris des espaces qui vous ressemblent, dont on va parler. S'il devait y avoir une note de fond peut-être, ou une texture, une température qui serait associée au pays de vos racines. Can Lee, à nouveau.
Alors, c'est intéressant parce que j'ai tendance à vouloir dire qu'il n'y a pas une texture, ni une odeur, ni une couleur pour qualifier ou pour définir la cuisine vietnamienne d'où je viens. C'est plutôt un savant mélange de plein de choses. Parce que la cuisine vietnamienne, c'est une espèce d'équilibre, un petit peu, de texture. Donc, il faut du croustillant, il faut quelque chose de craquant, de rafraîchissant. Il faut aussi du liquide, il faut que ce soit chaud. Il faut une résistance ou une espèce de côté un peu silicone, comme ça, qui résiste un peu sous la dent.
Il faut que ce soit moelleux.
Oui, silicone, voilà, élastique un petit peu.
Comme les bánh cuốn dont vous parlez.
Comme les bánh cuốn dont je parle. J'ai toujours les bánh cuốn en tête, hein. Je suis coincée dessus. Je crois que le Vietnam me manque trop. Il y a vraiment plein d'éléments qui sont importants pour constituer une bouchée un peu parfaite. Et souvent, comme beaucoup de pays en Asie, il y a plein d'éléments sur la table. Et chaque élément est censé représenter aussi une texture et un goût différent. On peut aller dans le très salé, dans le très fermenté, dans le très chaud, le très acide. Donc les pickles aussi, c'est omniprésent dans la cuisine vietnamienne. Les herbes fraîches. Le banh mi, c'est un petit peu l'exemple parfait pour définir un peu tout ça. Et c'est difficile d'avoir un arôme principal qui va ressortir. Je dirais que c'est vraiment les condiments de base qui vont être le plus fort. Donc la sauce nuoc mam, par exemple.
Céline,
je pense que ce qui se détache, c'est vraiment la complexité à la fois des textures et des saveurs. C'est-à-dire que c'est un harmonieux mélange entre des textures et des saveurs opposées, mais qui finalement forme un bel équilibre en bouche. Et je pense que c'est ça qui, moi, en tout cas, me touche dans la cuisine chinoise. Typiquement, on a l'exemple du sucré-salé. Donc, c'est-à-dire que c'est deux saveurs différentes, mais qui, mélangées ensemble, forment quelque chose de complexe et de très doux, finalement. Et c'est pareil pour les textures. On mélange souvent du croustillant et du fondant. À l'image, par exemple, du canard pékinois, où la peau est très croustillante et le magret à l'intérieur est très, très fondant. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment ces oppositions entre les textures et les saveurs qui, finalement, forment quelque chose de très, très agréable en bouche et qui crée la surprise.
On y est. Moi, je me régale depuis le début de cette émission. Alors, je le disais en tout début, vous avez deux parcours qui sont à la fois différents, puisque vous n'avez pas fait les mêmes choses. Vous ne vous connaissez pas, d'ailleurs, pour de vrai. Pas dans la vie réelle, comme on dit sur les réseaux sociaux. Cependant, vos parcours sont assez parallèles dans la mesure où vous avez eu une autre vie avant de venir à la cuisine. Vous, Canlink, comme cuisinière et aussi entrepreneuse, puisque vous avez ouvert cet établissement The Hood, qui est donc à Paris, rue Jean-Pierre Timbaud, pas tellement loin d'ailleurs de Gros Bao, qui est le deuxième établissement de Céline Chang, qui a été ouvert après Petit Bao. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a poussé, l'une et l'autre, à créer ce genre d'endroit en mettant en relief votre culture asiatique.
C'est intéressant parce que lorsque je rejoins l'équipe du Hood, à la base, j'étais pas chef chez eux, je bossais ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé le projet parce que c'était avant tout de créer un lieu où on pouvait faire se rencontrer des gens et de créer un peu un lieu de journée qui était ouvert du matin au soir et on pouvait toujours habiter un peu en milieu de journée comme en début de matinée. Et je suis franco-vietnamienne déjà d'origine, donc ça fait qu'il y a un mélange qui est un petit peu compliqué parfois à assumer, parce qu'en France on n'est jamais vraiment français, et au Vietnam on n'est jamais vraiment vietnamien, parce que du coup on a une double culture, qui peut être pesante parfois. Et je pense que j'avais cette volonté, moi j'ai eu des parents qui étaient restaurateurs à une époque, je bossais avec eux lorsque j'étais au lycée et au collège aussi, je les aidais, je servais, je cuisinais un petit peu avec eux. Et j'ai remarqué qu'il y avait ce préjugé aussi de la cuisine asiatique, qu'on pouvait avoir en France parce que avec les premières vagues d'immigration, forcément, il y a plein de familles qui en sont devenues restaurateurs et qui ont adapté leur cuisine aussi au palais en fait français tout simplement. J'avais cette volonté de faire découvrir une cuisine un peu différente, puis des plats un peu différents. Donc on a commencé doucement au Hood à juste intégrer des plats plus authentiques, disons, que ce que je pouvais trouver moi-même en tant que cliente dans d'autres établissements. Cette volonté de retrouver des parfums d'enfance, du coup de créer des émotions, qui est pas juste une espèce d'envie très physique de manger le même plat de son enfance, mais aussi de retrouver un peu cet instant, comme si on avait sa tante ou sa mère dans la cuisine et en train de cuisiner et on les rejoignait pour les aider. Il y avait cette volonté-là et c'est devenu assez naturel et c'est venu assez lentement. J'ai intégré des plats un peu nouveaux, puis on a intégré le banh mi. Et tout naturellement, c'est devenu pour moi normal de montrer que la cuisine asiatique était un petit peu hors cadre que ce qu'on avait en tête. En dehors du riz cantonais, du boboon, ce plat créé qui n'est pas un plat vietnamien à la base. Enfin, pas tout à fait, qui est un plat un peu métis qui a été créé en France. Et je voulais un peu m'échapper de ça, de pas faire de nem et faire une carte plus proche de ce que moi, en tant que vietnamienne, et de ce que mon équipe avait envie de créer.
Vous vous retrouvez dans les propos de Clan Lee, Céline ?
Ah oui, complètement. Je pense que c'est la question de la double culture. C'est clairement ce qui m'a poussée à vouloir ouvrir un restaurant. C'était vraiment une quête d'identité. Justement, essayer de trouver une place quand on a cette double culture. Où c'est vrai que je me suis jamais sentie complètement française en France et complètement chinoise en Chine. Et je savais que j'étais finalement 100% l'un et l'autre. Et c'est vrai que c'est pas complètement évident à assumer et aussi être comprise dans cette multiculture et cette envie de créer un espèce de pont entre les deux cultures, du coup. Je trouve que le restaurant est le meilleur lieu pour ça, parce que je trouve que la cuisine dit beaucoup de choses d'une culture. Et du coup, je pense que pour partager un bout de cette culture-là, rien n'est mieux que de faire partager sa cuisine et créer un lieu en France. C'était vraiment le projet un peu parfait pour faire ce pont-là, quoi.
Ce qui est étonnant aussi, c'est que vous, vos parents n'étaient pas du tout dans la gastronomie, contrairement à Canli. Donc ça a été une autre étape pour vous aussi, de les convaincre.
Je pense qu'on partage vraiment la même pensée. Il y a ce truc aussi où dans les familles asiatiques, il y a un préjugé dans le fait d'être restaurateur. Surtout d'une génération qui est arrivée en France et on est censé avoir fait des études. Moi, j'aurais dû être médecin ou avocate, clairement.
Et vous, présidente, Céline, n'est-ce pas?
C'est ça.
Donc voilà, et c'est vrai de s'engager dans une voie qui est par définition et puis qui est réellement laborieuse, c'est une voie qui est fatigante, qui est chronophage, ça prend un énorme pan de sa vie. Et en même temps, on se dresse aussi devant des obstacles potentiels. Enfin, quand je vois la tagline du restaurant de Céline, ça me touche parce que c'est vrai que on est soumis à ces préjugés de il y a du glutamate dans votre cuisine, c'est pas des produits de qualité, ça peut pas être sourcé en France.
Céline s'en est amusée d'ailleurs, il y a pas de rats, il y a pas de... Qu'est-ce que vous aviez mis à votre carte déjà pour faire battre en retraite ces préjugés?
Oui, j'avais mis sur la devanture de Petit Bao, avant l'ouverture, des affiches qui disaient « No dogs, no cats, no rats, just Chinese food ».
Donc pas de chien, pas de chat, pas de rat, mais juste de la nourriture asiatique et de la bonne cuisine.
C'est ça, exactement.
Vous, Céline, comment est-ce que vous avez convaincu vos parents?
Moi, j'ai arrêté d'essayer de les convaincre, parce qu'en fait, ça ne marchait pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démissionné d'un poste en conseil, donc avec une situation très stable. Ils étaient rassurés que je fasse ce type de métier. Mais il y avait quand même un bout d'eux qui se demandait pourquoi je n'entreprenais pas. Et donc, quand j'aurais dit que je voulais entreprendre dans la restauration, ça les a complètement fait peur. Ils comprenaient pas pourquoi je me lançais dans ce type de métier, alors que j'avais fait toutes ces études pour avoir une vie justement beaucoup plus simple par rapport à eux, qui eux, en fait, ont dû se débattre pour vaincre la pauvreté. Ils ont travaillé 7 jours sur 7 pendant 20 ans pour réussir leur ascension sociale. Et du coup, ils voulaient pour leurs enfants une vie beaucoup plus simple, on va dire. Et du coup, ils comprenaient pas pourquoi moi, je me mettais dans cette situation-là si difficile et je me mettais à risque. En fait, eux avaient une image assez dévalorisé de ce métier-là, alors que moi, je trouve que c'est un métier qui est très, très beau. Et du coup, comme on n'était pas d'accord, j'ai décidé de ne pas leur dire que je montais un restaurant. Je pense que c'était vraiment l'épreuve la plus difficile de ma vie, parce que à la fois, je me laissais dans un projet que je connaissais pas du tout. J'avais mis toutes mes économies et en plus, psychologiquement, mes parents ne me soutenaient pas. C'était vraiment pas facile. Et du coup, finalement, c'est juste 2 mois avant l'ouverture de Petit Bao, quand le restaurant était en chantier, je leur ai dit, bon, bah voilà, j'ai acheté un fonds de commerce, le restaurant, il est en chantier. En fait, c'est mon choix, et voilà. Ouais, c'est comme ça, en fait, que j'aurais annoncé.
Vous, vos parents l'ont pris comment, Ellie?
C'est la même histoire, c'est fou. Sauf que c'était pas Petit Bao, du coup. C'était durant le concours de Masterchef. On était en plein tournage, ça faisait déjà 1 mois et demi qu'on tournait, et j'étais en finale. On était 4, 3 hommes et moi. Et je leur ai annoncé que j'étais en train de me reconvertir et que j'avais quitté mon poste à l'époque en horloger de luxe pour me reconvertir en cuisinier. Ce qui leur a fait un choc déjà. Pourquoi faire de la télé? Pourquoi faire de la cuisine? Surtout pas au grand pourquoi. Ça leur faisait peur exactement la même chose. Et je pense que, étrangement, pour moi, c'était pas un mensonge qui était difficile hein, parce que je leur cachais pas quelque chose. C'est un projet que j'ai fait pour moi et parce que je sentais qu'à ce moment-là, si je leur avais annoncé, ça m'aurait fait me poser des questions qui n'étaient pas légitimes. C'était nécessaire pour moi de faire de la cuisine. C'était hors de question de faire autrement. Donc c'était un mensonge, ouais, important.
Important, mais c'était un message d'amour aussi.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
They say you weren't tall enough.
All the glitter
is my goal.
Wow, yeah, we're gonna cook this
on our reality.
Let's come by.
Is what you leave.
That's your new girlfriend.
This is family business, and this is for the family that can't be with us. And this is for my cousin locked down. Oh, the answer's in us. This is why I spit it in my song, so sweet like a photo where your granny's pitching. Now that you're gone, it hit us. Super hard on Thanksgiving and Christmas, this can't be right. Yeah, you heard the track I did, man, this can't be life. Somebody please say grace so I can save face and have a reason to cover my face. I even made you a plate, soul food, know how granny do it. Monkey bread on the side, know how the family do it. When I brought her, why the car had to look all through it. As kids, we used to laugh, who knew that life would move this fast. Who knew I have to look at you through a glass. And look, you tell me you ain't did it, then you ain't did it. And if you did, then that's family business.
Everybody standing with us. Come on, let's take a family Grammy picture. Abby, remember when they ain't believe in me? Now she like, see, that's my cousin on TV. Now, we getting it and we gon' make it. And they gon' hate it and I'm his favorite. I can't deny it, I'm a straight rider. But when we get together, be electric sliding. Grandma, get them shook up. Oh, nah, don't open the photo book up. I got a Aunt Ruth that can't remember your name. But I bet them Polaroids will send her down memory lane. You know that one aunt. Auntie, you don't mean to be rude, but every holiday nobody eating a fool. And you don't wanna stay there, cause them your worst cousins. Got roaches at they crib like them your first cousins. Act like you ain't took a bath with your cousin. Fit three in the bed. If it's six of y'all, I'm talking about three by the head and three by the leg. But you ain't have to tell my girl I used to pee in the bed.
Family Business, Kenny West sur RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez Le Goût du Monde avec la cuisinière Kan Lee, fondatrice associée du coffee shop The Hood à Paris. Et Céline Chung, fondatrice d'un Bao Family Business, petit et gros Bao à Paris toujours. Nous parcourons en évoquant le goût et les souvenirs, l'Asie du Sud-Est, de boucher en boucher. Un poulet frit ici, un bol de soupe, une poignée d'herbes fraîches.
Les herbes, déjà. Découvrir que la cuisine vietnamienne est vraiment aromatisé avec des herbes crues et non pas avec des épices. Et donc tout vient avec ce panier d'herbes fraîches. Et quand on est en Amérique, surtout dans les années 80, il y avait très peu de ces herbes qui étaient exportées ou cultivées. Aujourd'hui, évidemment, on en reçoit tous les mois. Mais même là, quand les herbes arrivent par avion, elles n'ont pas la même diversité. Au Vietnam, c'est des paniers de 15 herbes différentes, au moins qu'on vous sert en même temps pour accompagner tout, n'importe quel plat. Et ce sont des mélanges un peu différents. Et donc, une bouchée à une autre, vous ne mangez jamais le même plat. Mon plat préféré, encore aujourd'hui, ce sont des rouleaux. Dans les rouleaux de printemps, normalement, il y a 6 herbes différentes, au moins, au Vietnam. Donc, d'une bouchée à une autre, déjà, au niveau des lèvres, vous avez un goût. Et quand vous commencez à mâcher, là, vous mélangez les herbes. Donc, il y a une certaine fusion de tous ces parfums. Et puis après, quand on avale, ben, il reste le bouquet de parfums qui se dégage comme ça dans le fond de la gorge.
Et la douce voix de l'écrivain vietnamienne Kim Thuy, que nous avions reçue pour son livre Le secret des vietnamiennes et qui, évidemment, parlait d'amour beaucoup. Alors, on parlait donc de vos établissements à l'une et à l'autre, Gros et Petit Bao, The Hood, donc on est à Paris, de vos parcours parallèles, étonnamment parallèles. D'ailleurs, c'est très étonnant et c'est très amusant et en même temps tellement logique. Et quand j'ai dit au tout début pour vous présenter que vous étiez inspirante, parce que vous l'êtes clairement, en fait, on parle avec vous 5 minutes, on a envie de se dire pff, comment est-ce qu'elles ont fait, comment est-ce qu'elles ont ce courage-là de pouvoir monter tout ça. J'ai eu la chance de rencontrer Kan Lee, votre associée, Pearl, pour parler justement de cette ambiance que vous vouliez créer à The Hood. Pour qui, pourquoi, comment?
The Hood was founded on...
The Hood a été imaginé comme un lieu où quiconque pourrait venir, quelle que soit sa nationalité, sa couleur, sa religion, et se sentir le bienvenu, avec l'envie aussi de mettre en lumière toute nouveauté, de la musique à la nourriture, et en ce qui nous concerne, la cuisine asiatique. Notre menu a beaucoup évolué depuis l'ouverture. À nos débuts, nous étions un coffee shop. On proposait surtout des pâtisseries, des jus, un brunch à l'occasion, et toujours du très bon café. On a vite remarqué que la cuisine asiatique intriguait et que nos origines pouvaient être un atout et notre force pour nous distinguer en mettant en valeur des plats d'Asie moins connus, à commencer d'ailleurs par le pandan, inscrit à notre menu dès le tout premier jour. Le chiffon cake au pandan, d'abord. C'était un gâteau complètement inconnu ici. Et d'ailleurs, la question qu'on nous pose le plus souvent encore aujourd'hui, c'est quoi ce gâteau vert ?
So it has evolved since the pandan was introduced and we started to bring in more.
Ces deux dernières années, on a commencé à introduire un peu plus de pandan dans notre menu. Par exemple, le Hainanese chicken rice, le riz au poulet du Hainan. Le bouillon est fait avec du pandan et du gingembre, et aussi notre nasi lemak, un plat de la cuisine de rue de Singapour et de Malaisie. Le riz est infusé au pandan. Notre équipe est très éclectique, chacun apportant sa touche, une saveur à notre menu. Par exemple, nous avons un curry vegan, inspiré de l'aloo matar indien bengalais et pakistanais. L'inspiration asiatique vient de Kan Lee et moi. Récemment, une coréenne a rejoint notre équipe. On joue avec cette nouvelle influence, avec un kimchi de daikon, et pas de chou comme c'est le cas d'habitude, pour arriver à un kimchi spécial pour nous.
Ce qui est génial, c'est que évidemment, Pearl singapourienne était traduite là, et que les trois quarts des plats qu'on a évoqués, on ne savait pas les prononcer. Et ça veut bien dire qu'on a vous apporté un regard nouveau sur cette cuisine asiatique, en tout cas sur ce pan de cette cuisine d'Asie du Sud-Est, Kenley.
Alors c'est vrai que naturellement, en créant l'établissement, on a de plus en plus de personnes asiatiques qui ont rejoint l'équipe. Et ça me paraissait tellement évident de construire une carte qui était inspirée de tout le monde. On avait du mal un peu au début à éduquer aussi notre clientèle parce que, comme vous dites, tous les noms des plats étaient un peu difficiles, même pour nous au début, en termes d'apprentissage. Surtout pour les membres de l'équipe qui étaient pas du tout éduqués à la construction des mots aussi, parce qu'on a des plats indonésiens, on a des plats malaisiens, singapouriens, vietnamiens, maintenant Bangladesh aussi, Pakistan aussi, tout est intégré. C'est pas évident pour, je pense, une clientèle qui a l'habitude d'associer un lieu avec une culture et un type de plat. Donc un restaurant vietnamien, un restaurant chinois, même si la Chine c'est très vaste, un restaurant indien, un restaurant coréen. Et nous, c'est vrai qu'on a voulu apporter...
Un restaurant international.
Oui, c'est un peu notre G8 à nous du top des pays asiatiques.
Du top des pays asiatiques. Céline aussi, en fait, c'est rigolo parce que dans votre carte, que j'ai sous les yeux d'ailleurs en partie, parce que là pour l'instant elle est à emporter, mais on a des plats qu'on n'a pas l'habitude de manger. J'ai vu la Tiger Bowl, donc ça c'est quelque chose qu'on mange mais très rarement. Toutes les aubergines dans les traitements des plats et tout ça. Est-ce que c'était très important pour vous d'apporter une nouveauté dans votre carte ?
Je pense que ce qui était important pour nous, c'était justement de montrer un petit peu la diversité des cuisines chinoises et d'apporter une cuisine qui soit réconfortante. Et du coup, dans la construction de la carte, on a plutôt choisi des plats de cantine classiques qu'on adore. Et en fait, on les a un peu twistés à la Bao Family. Et l'idée, c'est que à chaque fois, on choisit des classiques de la cuisine chinoise type nouilles sautées, riz sauté, aubergines. Et on va quand même sortir des plats qui sont un petit peu différents, comme le mapo tofu, pour faire découvrir les spécificités et sortir un peu aussi des plats très traditionnels qu'on connaît. Donc on fait un mix finalement entre des plats iconiques de certaines régions et des plats quand même assez classiques. Et ce qu'on aime en fait, c'est quand même reproduire, avoir plein de plats à partager. Parce que c'est ça la cuisine chinoise, c'est pouvoir tout mettre au milieu et tout partager ensemble. Et finalement c'est cette expérience-là qu'on a envie de faire vivre.
Le bao qui est une petite brioche vapeur, c'était important pour vous de lui redonner toute sa place ?
C'est vrai que c'est un produit chinois qui s'est exporté un peu partout en Asie. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve dans plein de pays. Après, le choix du bao, c'était pas forcément lui redonner une place. Mais par contre, moi, c'est un produit que j'affectionne tout particulièrement. Alors du coup, le projet du resto, c'est vraiment un projet qui est très très personnel. En gros, j'ai choisi le bao parce que je trouve que c'est un produit qui est hyper complexe à faire. Vraiment faire la pâte de A à Z, c'est compliqué. Le xiaolong bao, celui avec du bouillon à l'intérieur, c'est vraiment très complexe. Exactement. Et moi, en fait, j'adore les produits complexes et surtout le rendre populaire. Enfin, ce que je trouve génial, c'est d'avoir une expertise sur un produit, mais de pouvoir en manger tous les jours et de l'ancrer en fait dans des habitudes quotidiennes. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Et c'est comme ça en fait que le choix du Bao s'est fait. Et c'est surtout que je voulais vraiment créer une cantine populaire où les gens peuvent venir un peu tout le temps sans se poser de questions. Et je trouve que le Bao, en fait, c'est un produit qui est intemporel. Enfin, on peut en manger matin, midi, soir, tous les jours. On s'en lasse pas. Et je crois que c'est ça qui me plaisait dans ce produit-là. Et c'est pour ça que je voulais le faire partager.
Je partage votre fascination pour le Bao complètement. Et ce qui est amusant aussi, c'est que votre banh mi qu'on peut trouver à The Hood, on a ça aussi. C'est un pain avec des herbes fraîches. Est-ce que vous pourriez nous redire ce qu'il y a dans le banh mi?
Le banh mi, ça se compose déjà, l'élément principal, c'est le pain. Évidemment, c'est un peu l'enveloppe.
C'est un pain baguette.
C'est un pain baguette avec. C'est pas un pain de tradition du tout. C'est de la farine blanche. Donc à la base, le pain n'est censé avoir quasiment pas de goût. C'est vraiment une enveloppe avec une croûte très croustillante. Et ensuite, c'est garni dans un ordre assez particulier. Avec un corps gras, donc un beurre, une mayonnaise ou même un gras de viande. Une viande ou un légume, donc il peut être vraiment sous multiples formes. Ça peut être une charcuterie à l'asiatique, donc soit une rouelle de porc, nos pâtés, nos fameux pâtés vietnamiens, mais ça peut être aussi des viandes grillées, ça peut être des currys, ça peut être des œufs au plat. C'est vraiment assez vaste. Il y a des milliers de banh mi au Vietnam selon les régions, selon les familles, selon les petites cartes à banh mi. Ensuite, il y a des pickles, de légumes, donc soit carottes et radis, assez classiques, et une herbe fraîche, et toujours un assaisonnement final qui va apporter une goutte de soit du maggi, donc qui va être très salé, soit du nok mam aussi, qui va être salé, mais un peu plus sur le poisson. Donc c'est vraiment comme un immeuble un petit peu, ça se construit par couches et par étages, et que chaque étage a un peu son importance.
On y est complètement. Je vous propose à l'une et à l'autre maintenant de faire une escale en Inde. Parce que l'Inde, elle est quand même incontournable dans cette cuisine d'Asie du Sud-Est. Bonjour Sandra Salmanji.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes auteure culinaire. Vous aussi, vous avez eu une autre vie avant, puisque vous étiez dans la mode, consacrée maintenant entièrement à la cuisine et à vos racines. Je voudrais savoir un petit peu si on se promenait là en Inde. Alors vous choisissez la ville que vous voulez pour nous emmener. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme petit plat ou comme petit pain peut-être qu'on pourrait manger sur le pouce comme ça?
Alors déjà, ce qui est génial en Inde, c'est que partout où on se balade, effectivement, on peut manger. Et c'est ce que j'adore, c'est que y a pas trop de règles, on mange ce qu'on veut à n'importe quel moment de la journée. Et c'est l'Inde, en fait, comme dans beaucoup de pays asiatiques, il y a vraiment cet essor de la street food, de la cuisine de rue, qui fait que on va manger dans la rue, surtout des choses qu'on ne mange pas à la maison. Du coup, ça va être surtout des choses frites et beaucoup de petits pains garnis, de galettes, comme les dosas qu'on connaît bien. Donc moi, je vous emmènerai bien à Mumbai, par exemple, où j'ai d'ailleurs fait moi-même toute seule comme une grande un petit street tour il y a quelques années pour justement essayer de découvrir un peu cette culture que je n'avais pas forcément moi-même de la cuisine de rue indienne. Et c'était génial. Alors ça peut faire un peu peur au démarrage, hein, parce que en termes d'hygiène et tout, c'est quand même un peu, il faut être un petit peu habitué, il ne faut pas trop avoir peur. Mais c'est super intéressant, effectivement, de voir qu'on peut manger un peu tout et n'importe quoi, à n'importe quelle heure dans la rue. Dosas, notamment. Alors, les dosas, ce sont des crêpes, en fait, à base de riz et de lentilles qui sont transformées, en fait, comme une pâte qui est fermentée et qui devient une pâte blanche assez épaisse comme ça. Et cette crêpe, elle est réalisée en fait sur des espèces de grandes crêpières. En fait, elles sont grillées d'un côté et garnies de l'autre. Donc, il y a une partie qui est dorée, celle qui touche la fonte, et puis l'autre partie qui est garnie de ce qu'on veut, en fait, de plein de choses. Donc, ça peut être du masala, tout simplement, donc un mélange d'épices avec de l'ail, du gingembre. Ça peut être un petit curry, donc un curry de pommes de terre, donc des pommes de terre cuites avec des épices, de la coriandre fraîche. Ça peut être des légumes frais aussi, de la tomate. Et elles sont roulées comme ça et coupées ensuite en portions. Et les gens mangent ça, c'est des encas, en fait, plus ou moins.
Et au petit déjeuner, par exemple, comme vous avez dit, c'est une cuisine de rue, c'est quelque chose qu'on va emporter le matin quand on quitte son domicile pour aller au boulot.
Exactement. Donc le matin, par exemple, on va plutôt manger des pourris. Alors les pourris, ce sont des espèces de petits pains frits, donc ils font à peu près la taille de la paume de la main, qui sont frits dans des énormes bains de friture qu'on voit souvent en fait. Donc c'est des pains qui sont plongés dans la friture et qui gonflent et qui deviennent des espèces de boules. Et ensuite, on les met dans des petits sachets en plastique et c'est servi avec une petite soupe en fait de pois chiches ou de pommes de terre. C'est assez liquide. Et ça, c'est vraiment le petit déjeuner typique indien de rue.
Génial. Qu'est-ce qu'on sent là autour
avec
de vous?
Avec un petit chai, c'est parfait.
Un petit chai. Moi, je vous suis. On est parti.
Ça y est, on voyage.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
You know where we come from, there's a whole lot of handguns floating around. Somewhat of what we know as the Saturday night special. Might be a few of you carrying them, I don't know. But anyway, I'd like to maybe give you this song that relates to a gentleman by the name of Billy Jack. He somewhat got caught up into what we know as a gun attack, trusting that you'll never have such encounters. We'd like to maybe relate this to you in song. Just got Monday, I run into a friend down the street, down the street.
Billy Jack de Curtis Mayfield sur RFI, vous nous rejoignez et vous faites bien. On est bien là, ça sent bon, la coriandre, le riz, l'aigre doux de Bao de Dim Sum en feu, un thé à la main ou un verre de quoi est-ce qu'on pourrait boire ? Une petite limonade peut-être ? Qu'est-ce qu'on boirait selon vous, Ken Lee ?
Alors, au Vietnam, on boirait soit de la bière.
Mais oui, absolument, de la bière. Mais
bière hyper fraîche.
Et en Chine, qu'est-ce qu'on boirait donc, Céline ?
Un bubble tea.
Un bubble tea. Ben voilà, le bubble tea qui a séduit la planète. Ouais. Donc, Céline Chang, fondatrice des restaurants Petit et Gros Bao à Paris. Évidemment, Ken Lee, qui est avec nous depuis le début, cofondatrice de The Hood à Paris également. Et on a Sandra Salmanji, qui est à Mumbai, qui nous a fait goûter des mets délicieux. Je voulais savoir, Sandra, est-ce qu'il y a une épice ou une saveur qui a particulièrement bien voyagé et qui transporte l'Inde un petit peu partout dans le monde, qui s'est exportée?
C'est vrai qu'on a beaucoup d'épices aujourd'hui qu'on retrouve de manière très accessible. Hein. Comme disait tout à l'heure Céline, il y a ce côté où la cuisine indienne elle est devenue aussi de plus en plus accessible puisqu'on trouve des mélanges d'épices, même dans le commerce, je veux dire, de proximité. Je dirais le curcuma, je pense que c'est une épice qui a vraiment un rôle déjà très important au niveau santé et qui est devenu très populaire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont capables d'utiliser le curcuma de manière très spontanée. Ou bien encore la coriandre aussi. Je pense que la coriandre, que ce soit fraîche ou en épice, je pense que c'est une épice qui est de plus en plus populaire aussi et qui représente bien la cuisine indienne.
Tout à fait. La coriandre, elle signe un petit peu de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, cette coriandre, j'ai l'impression, Ken Lee.
C'est vrai qu'elle est très présente en Asie du Sud-Est parce que c'est une herbe qui est déjà en France très facile à trouver, contrairement à plein d'autres herbes asiatiques. Et elle a ce goût assez universel. C'est très rafraîchissant et ça va avec beaucoup de choses différentes surtout. Notamment au Vietnam, il y a chaque herbe a presque un goût d'épice ou a presque une destination. Il y a des herbes qui ont vraiment le goût de poisson, il y a des herbes qui ont le goût de crustacé, des herbes qui ont le goût de basilic très fort, très poivré. Et c'est vrai qu'on l'utilise un peu partout, facilement, dans la cuisine indienne, effectivement beaucoup, dans la cuisine vietnamienne également. Et c'est une herbe qui est aussi aromatique parce qu'on utilise beaucoup les racines. Et au final, c'est ce que j'aime beaucoup dans la coriandre, c'est contrairement à la menthe, la tige de la menthe est un peu plus amère, elle colore beaucoup, elle s'oxyde aussi. Et la coriandre, c'est vraiment entièrement utilisable. C'est tellement frais et juteux. Il y a une huile essentielle qui est assez forte. Donc, ça se marie avec tout.
En Chine également, on la retrouve beaucoup, cette coriandre, Céline Chung.
On la retrouve, mais je pense qu'elle est quand même moins présente qu'au Vietnam. Et elle va surtout servir à dresser les plats à la fin. Mmh. Donc, apporter cette touche de fraîcheur sur la fin. Mais ça ne constitue pas, en tout cas, un élément très, très fort dans la cuisine.
Vous diriez que ce sont plutôt des épices ? Ce serait plutôt quoi, selon vous ?
Ah oui, c'est énormément les épices. Par exemple, le 5 épices est très populaire. Il y a plein de bouillons avec 20 à 30 épices. Mmh. On utilise beaucoup la cannelle, l'albadiane, les graines de fenouil, le clou de girofle, les feuilles de laurier séchées. C'est vraiment une cuisine à base d'épices.
Comme en Inde. Ouais. Oui, Sandra, on vous
écoute. On a pas mal de points communs, effectivement, avec ces cuisines-là. Et c'est vrai que vous appelez ça le 5 épices. Alors nous, on pourrait donner plein de noms. Il y a des noms populaires comme le curry, qui finalement représente le mélange d'épices le plus connu. Mais on a aussi le garam masala, qui est finalement littéralement qui veut dire mélange chaud et qui représente en fait le mélange d'épices que va décider de faire la cuisinière. Donc il n'y a pas trop de règles. Il va y avoir des règles un peu de territoire avec des épices qui vont être plus ou moins importantes en fonction en fait des régions et en fonction des goûts et de la cuisinière. Et c'est aussi pour ça qu'en fait il y a beaucoup de cuisines et beaucoup de cuisines indiennes et beaucoup de plats différents. C'est surtout parce que chacun s'approprie en fait le mélange d'épices quoi.
Mais c'est ça qui est génial.
Finalement les mêmes épices que celles que vient de citer Céline.
Mais peu importe le pays, j'ai envie de dire chaque cuisinière fera sa recette et c'est ça qui est aussi assez extraordinaire. Bonjour Céline.
Bonjour.
Vous êtes avec Manel, votre femme, les auteurs d'une page en fait sur Instagram qui s'appelle Dumplings and More. Alors dumplings étant vraiment ces petites bouchées qu'on plonge dans de la sauce en général. Et votre page Instagram est très intéressante parce que c'est un pays par mois et chaque jour une recette. Alors vous avez voyagé dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces saveurs? Est-ce qu'il y a des traits communs, des herbes, des épices qui vous ont marqué et que vous retenez en mémoire?
Le premier pays d'Asie qu'on avait fait, c'était le Vietnam. Forcément, au Vietnam, on avait préparé les bao qu'on a retrouvés dans d'autres pays parce que quelques mois après, on avait fait l'Indonésie. En Indonésie, justement, on trouve le bak pao. Et il est assez intéressant parce que c'est la preuve que les plats, ils voyagent et en plus, ils arrivent à s'adapter aux goûts locaux, parce que justement, si le bao au Vietnam et le baozi chinois est plutôt à base de porc, en Indonésie, on le trouve avec du poulet, avec du bœuf, on le trouve même végétarien, parce qu'il y a une grosse communauté bouddhiste en Indonésie, même si le pays est majoritairement musulman.
Ensuite, après l'Indonésie, je me rappelle, on avait voyagé aux Philippines. Il y avait une certaine bouchée qui m'avait beaucoup plu, surtout parce que ça comportait un certain challenge. En fait, c'était l'empanadas des Kaniski. C'était une sorte de pâte feuilletée, mais faite d'une manière différente de ce que l'on trouve en France. Les feuilles sont réalisées et sont superposées une à une, contrairement à la pâte feuilletée française qu'on connaît. Et ensuite, en fonction du nombre de feuilles réalisées, le feuilletage sera de plus en plus impressionnant. Et ça vient de l'influence un peu coloniale espagnole sur les Philippines.
Mais c'est ça qui est totalement fascinant, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a un vrai voyage des aliments et la manière dont on s'est approprié ces cultures et dont on les a francisées quand elles sont arrivées en France et tout ça. Est-ce que c'est une importance pour vous, justement, dans cette transmission potentiellement des recettes?
Je dirais que la complexité un peu du métier qu'on a aujourd'hui, c'est de pas bouleverser trop et choquer trop, et en même temps de pouvoir transmettre quelque chose d'authentique. Et au début, évidemment, quand on a ouvert le Hood, j'avais cette peur de faire peur, tout simplement. Que ce soit trop épicé, que ce soit peut-être trop fort. Dumplings and More parlait du Nook Mam, et l'équivalent qu'il cherche en pâte, c'est Mam Tom, c'est une pâte de crevettes fermentées. C'est très très fort, même certains Vietnamiens n'aiment pas ce parfum-là. Et c'est vrai qu'il faut trouver là un peu la justesse et le point d'équilibre entre ce qu'on a vécu en enfant, et ce qui nous a émus, et ce qui peut aussi toucher quelqu'un qui n'a pas forcément ces souvenirs-là. Aujourd'hui, je pense que essayer de trouver le bon lieu où on peut se rencontrer, c'est vraiment avec les produits français naturellement. La cuisine va un peu changer de toute façon, parce que forcément, les températures, le climat fait changer aussi les choses. Faire un bao en France, c'est pas la même chose que faire un bao en Chine ou au Vietnam, parce que voilà, c'est pas tropical, il y a moins d'humidité, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Et ben, c'est pareil pour tout ce qu'on fait au restaurant. Les volailles sont différentes en France. Donc forcément, quand on va retrouver des plats en Singapour, notre plat phare au restaurant, c'est le chicken rice. Avec une volaille des Landes, élevée au maïs, en plein air, avec une peau jaune, qui est hyper dodue, qui est élevée pendant 45 jours, 50 jours, ça n'a pas du tout la même tête en France que là-bas. Donc forcément, le plat va changer, il va s'adapter de façon très naturelle, sans forcer.
Céline, vous aussi, hein, dans vos bao également, on retrouve des produits français, des farines françaises. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette préservation des recettes et de cette ouverture?
Je trouve que la notion d'authenticité, c'est une question qui est très difficile, parce que je pense que ce qu'on essaye de faire, toutes les deux, c'est de retransmettre un peu l'héritage de notre cuisine et de rester authentique au maximum. dans le respect des recettes. En même temps, c'est vrai qu'on est en France, on a envie d'utiliser des produits de notre pays, sourcés local quand on peut. Et forcément, comme en effet, c'est un pays au climat différent, aux produits différents, ça change un tout petit peu. Certains goûts, c'est sûr que quand on n'utilise pas les mêmes produits, on trouve pas exactement les mêmes textures. Et du coup, je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est prendre des recettes authentiques avec des produits qu'on arrive à bien sourcer en France. Et du coup, finalement, je trouve que c'est le parfait mélange entre ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire... c'est l'image de notre double culture, quoi.
Est-ce que vous trouvez que la cuisine asiatique, on porte un nouveau regard sur cette cuisine aujourd'hui, la deuxième, la troisième génération, vos amis, est-ce que vous sentez que ça change?
J'ai le sentiment qu'on a tendance à revaloriser tout doucement la cuisine asiatique, parce qu'on comprend qu'elle se métamorphose, comme toute forme de cuisine. C'est pareil pour la cuisine française en France, elle bouge aussi, elle évolue. Les brasseries d'il y a 50, 70, 100 ans, elles ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et c'est normal qu'avec une aussi grosse communauté asiatique en France, la cuisine évolue également, parce que quand c'est une part d'authenticité, c'est intéressant parce que l'authenticité, elle est très subjective au final. Chaque famille aura sa version de l'authenticité. C'est pareil pour des plats français, le cassoulet avec ou sans tomate. Il y a plein de règles comme ça qui sont pas vraiment établies parce que est-ce qu'il y a vraiment des règles? Et pour la cuisine vietnamienne ou asiatique en général, je dirais que c'est la même chose. Je dirais que le goût évolue et les gens évoluent et s'ouvrent à d'autres plats parce que je pense qu'il y a moins de timidité aujourd'hui pour les générations comme nous de présenter des plats qui font partie de notre patrimoine.
Céline, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Canley?
Ah oui, on est super alignés depuis le début, donc c'est trop bien. Et après, je pense qu'on apporte un regard nouveau quand même à cette cuisine.
Oui, c'est ce que j'ai envie de vous dire, parce que là, je vous interromps, mais si on est bien sage et tout, vous mettez un sacré coup de pied quand même. Ce que vous proposez, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, qu'on découvre et on se dit, ça y est, j'ai jamais goûté thaï, j'ai jamais goûté chinois, j'ai jamais rien goûté, je ne connais pas. Et je découvre, et c'est ça qui est génial.
Oui, c'est un pari osé qu'on a voulu faire, c'est-à-dire vraiment montrer notre vision de notre cuisine et pas avoir peur finalement de montrer le vrai et en plus de le faire dans des cadres hyper contemporains qui s'inscrivent dans l'air du temps, qui peuvent parler à tous les Parisiens. Et ça, c'est vrai que c'est complètement nouveau parce que souvent, les restaurants asiatiques, on avait une image très traditionnelle parce que c'était finalement les restaurants tenus par nos parents, enfin en tout cas par les générations précédentes.
Oui, on ne pouvait pas trop bouger ces règles-là quand même jusqu'à présent,
exactement,
j'ai l'impression.
C'est ça. Et je pense que nous, on apporte en effet un souffle nouveau, notre regard moderne. On aime bien casser les codes aussi. On ose faire des choses pas communes. Et c'est ça, je pense, qui ouvre un petit peu, du coup, les regards sur la cuisine asiatique.
Je voudrais que vous écoutiez juste le réalisateur singapourien Eric Koo, qu'on avait reçu au moment de la sortie de son film La saveur des ramen, savoir ce qu'il dit de la cuisine de Singapour. Je pense que ça va vous inspirer aussi.
Singapour est un tout petit point sur la carte avec une population de 5 millions de personnes. Mais la diversité des restaurants et des cuisines qu'on y trouve est absolument incroyable. On peut même trouver un très bon plat pour à peine 3 euros. Singapour, c'est un endroit où il y a eu beaucoup d'immigration, des Chinois, des Indiens, des Malaisiens. Il y a aussi beaucoup d'Européens, des Français. Et quand on mélange toutes ces cultures, toutes ces épices, ça donne naissance à une nourriture qu'on ne trouve que sur cette petite île. C'est merveilleux parce qu'il y a tant de nationalités différentes que ça devient comme de la fusion. Les Chinois utilisent des ingrédients malaisiens ou indiens. Et les Indiens ont créé la tête de poisson au curry. C'est absolument incroyable. Après la guerre, les têtes de poisson ne coûtaient rien. Et les Indiens savaient que les Chinois adoraient la tête de poisson. Ils ont alors décidé de les séduire avec une sauce au curry et au tamarin. Aujourd'hui, c'est très à la mode et c'est délicieux.
Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait rêver, quoi, une cuisine pan-asiatique. C'est enthousiasmant, non, Canley?
Complètement. C'est vraiment le but, je pense, c'est de montrer que l'Asie, c'est bien plus vaste que les petits plats aujourd'hui qui sont devenus légendaires dans la cuisine asiatico-française, je dirais. Et je pense que c'est un peu le rêve de trouver un lieu où... Parce que la cuisine asiatique, on a envie de plein de choses. Moi, quand je pense à la cuisine asiatique, j'ai envie soit de très épicé, soit d'une soupe, soit d'un truc très gras ou... Enfin, j'ai vraiment plein d'envies différentes.
Heureusement qu'on en mange toute la journée.
Exactement. C'est vrai, trouver un lieu qui peut... Je pense que c'est ce que j'ai voulu créer, et c'est ce qu'on a voulu créer ensemble avec le Hood, c'est d'avoir dans ce lieu-là plein de plats qui peuvent satisfaire une envie particulière et pas juste un style de cuisine.
Mais c'est ce qu'on a aussi chez vous d'ailleurs, Céline. Ce qui est étonnant, c'est que dans la cuisine singapourienne aussi, ils ne se sont pas tournés de leur cuisine du passé et historique, hein, puisqu'il y a la cuisine Peranakan qui est issue justement des recettes traditionnelles. Et cependant, on avance, on innove et on a créé des hawkers qui sont des centres où on va pour manger, déguster, passer la journée et qui sont justement patrimoine immatériel de l'humanité et en une place, en fait, ce que vous aimeriez faire, des grands centres où on pourrait manger, aller, venir, se rencontrer, c'est un peu ça?
C'est clairement le rêve. Je pense que quand on va dans un hawker center à Singapour, on se rend vraiment compte que quand on parle d'odeur en Asie, là, c'est une concentration absolue. Il y a cette odeur de wok, le wok hei, qui est ce parfum empyreumatique très fumé, qui va vraiment donner envie de manger. Il y a ce côté un peu plein air, l'odeur de barbecue un petit peu. Il y a aussi des stands de nouilles, des stands de soupe, des stands de raviolis. On a vraiment de tout. Et il y a une espèce de côté divertissement. C'est autant un festin, c'est un peu cliché, mais pour les yeux que pour le reste. Et le fait de pouvoir snacker, qui est très asiatique, c'est de manger plein de petites choses. On n'a pas le format entrée plat dessert comme en France. On a tellement envie de manger de tout qu'on va finir par manger de tout.
Bah, je compte sur vous du coup, Céline, aussi. Hein, parce que je pense que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Kanli.
Ah oui, déjà à Singapour, c'est là où j'ai le mieux mangé, je pense. Et je trouve ça génial, en fait, ce mélange de saveurs, d'odeurs, de plats d'inspiration de tous les pays d'Asie, les mélanges. Je trouve ça exceptionnel. Et du coup, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de reproduire à Gorobao. Mais du coup, nous, on est vraiment restés sur quand même la Chine. Et ce qu'on voulait montrer, c'était la diversité des cuisines de chacune des régions. Et du coup, là, c'est plutôt un voyage de région en région. Mais en effet, on trouve pas mal de plats, de snacks, notamment qu'on sert en entrée. Les bao, typiquement, c'est ça. Et puis après, plein de plats à partager. Et c'est vraiment reproduire cette expérience, finalement.
Je compte sur vous, en fait, pour créer la nouvelle scène asiatique en France. Que l'on sache bien que la cuisine française, c'est aussi la cuisine d'Asie, c'est aussi toutes ces cuisines et le reflet de toutes ces cuisines. En tout cas, je vous remercie toutes les deux. Normalement, on demande un ingrédient, un ustensile. Céline, pour commencer.
Alors, moi, j'ai envie de parler du poivre du Sichuan, que j'adore, qui paralyse la langue, en ingrédient. Et après, en ustensile, un panier vapeur. C'est un indispensable à avoir à la maison.
Kanli, vous?
Alors, c'est un peu plus classique. Je partirai directement sur le citron vert parce que l'acidité, c'est hyper important pour balancer tous les éléments aromatiques de tous les plats asiatiques, notamment Asie du Sud-Est. L'acidité, c'est hyper important pour pouvoir sentir le salé, le piquant, le chaud et le froid. Et ensuite, en ustensile, les baguettes, mais pas pour manger, pour cuisiner. On cuisine beaucoup à la baguette chez nous et c'est hyper important parce que on peut vraiment saisir les éléments de façon très précise.
En tout cas, je vous remercie toutes les deux très sincèrement. Kanli Win, on vous retrouve dans votre refuge The Hood, c'est à Paris rue Jean-Pierre Timbaud, aux côtés de Pearl, Céline Chung, petit gros Bao Market aussi, et l'épicerie, en takeaway, en click and collect, à Paris, c'est Kedjemap. Alors ce qui est super Kedjemap, c'est gros Bao, alors quand les restos réouvriront, on pourra aller à l'étage et donc manger à un Bao en regardant la Seine couler, ce qui est quand même assez romantique. Et vous êtes également rue Saint-Nice à ces petits Bao, donc à Paris, les adresses, les recettes seront sur la page du Goût du Monde. Dites-nous, vous, si vous êtes curieux de cette cuisine d'Asie, a-t-elle commencé à se frayer un chemin en Afrique également? Qu'avez-vous goûté? Racontez-nous sur Instagram, Facebook, sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66. Merci beaucoup à Cécile Bonissi qui a réalisé et mis en onde cette bouche-ci. Merci à vous de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain. Nous parlerons farine et petit pain. Et oui, pâtisserie aussi. Belle semaine à tous.
À l'heure sur RFI. Éco-10.